Derrière ces murs se côtoie tout le crime de Naples. Membres de clans, mais aussi petits braqueurs. Les hommes s'observent, tout se sait, mais la parole n'est pas libre. Ici, c'est le quartier de la Camorra. Je n'y aurai pas accès. La consigne de la direction est sans appel. Pas question de donner la parole aux mafieux. C'est une ville de légende, prise en étau entre une baie à couper le souffle et le Vésuve qui ne s'éteint jamais. Naples, la ville nouvelle en grec, est en ébullition. Ce sont mes premiers pas dans la ville. Le faste des palais et des églises témoigne d'un passé glorieux. Maintes fois conquise, mais jamais soumise, Naples est au carrefour des civilisations. C'est la ville aux scooters, aux ruelles pleines de vie. On y vient pour sa gastronomie réjouissante, sa mozzarella et la meilleure pizza d'Italie.
Bistecca Marina! Viva Napoli!
À Naples, on parle fort et on joue au foot dans la rue. Mais cette douceur de vivre ferait presque oublier qu'ici, c'est la mafia qui dicte sa loi. Naples est le berceau de la Camorra, le maître du jeu en dialecte napolitain. Une mafia urbaine, anarchique et meurtrière. Depuis près de 3 siècles, elle a développé une économie parallèle et sème la désolation. Drogue, armes, faux billets, contrefaçons, ces trafics inondent la terre entière et se chiffrent en milliards d'euros. Ces 10 dernières années, la police et la justice ont neutralisé les barons du crime. En s'effondrant, la pyramide a donné naissance à une multitude de groupuscules, des nouveaux clans hors de contrôle et beaucoup plus violents. Pendant 1 semaine, je vais sillonner ce territoire mafieux. Je partirai en patrouille avec la police. Ces hommes de terrain traquent le crime dans les bas-fonds de Naples. J'entrerai dans les tours infernales de Scampia, un ghetto sinistre au nord de la ville. J'y rencontrerai les âmes perdues de ce no man's land. À Naples, certains ont dit non à la terreur. Ces justes sont prêtres, éducateurs, juges anti-mafia. J'assisterai au procès du dernier chef des Casalisi, un clan sanguinaire. Je plongerai dans l'enfer carcéral de Poggio Reale, une ville dans la ville où la pègre règne en maître derrière les barreaux. Enfin, je découvrirai le triangle de la mort, une immense décharge à ciel ouvert où la mafia a sacrifié la campagne et la santé des enfants. J'affronterai le tumulte de cette ville hors norme, avec en poche un passeport pour le crime. La journée s'achève sur la baie de Naples. Les oiseaux de nuit peuvent prendre leur envol. C'est le même rituel chaque soir. Partout dans la ville, la police occupe le terrain. Sa mission, harceler les criminels pour leur rendre la vie impossible.
Attention au trottoir.
La brigade d'investigation de Naples est en alerte au milieu des embouteillages. Les sorties de bureau, c'est l'heure de pointe pour les mafieux.
Souvent, les braquages ont lieu sur les ronds-points, quand les voitures sont bloquées. Ils en profitent pour voler les manteaux, les sacs des gens.
Alfredo Cacharo est entré dans la police à 19 ans. Il en a 34.
C'est ce scooter, devant là.
Sur ce scooter, 2 individus bien connus des policiers.
C'est eux là-bas, c'est eux. Allez, vas-y, fonce. On les rattrape.
Il vient de tourner.
La poursuite s'engage. Au milieu des bouchons. Avantage au scooter. Il ne faut surtout pas le perdre de vue et jouer des coudes pour se faufiler. Le chauffeur n'hésite pas à prendre le rond-point à contresens. La course-poursuite ne dure que quelques minutes.
Bloque-les, bloque-les. Vas-y, freine.
Les policiers rattrapent très vite les deux suspects. Ils traquaient des voleurs. Ce sont des dealers qu'ils interpellent. Alfredo fouille aussitôt le passager pour s'assurer qu'il ne jette rien. Banco.
J'ai trouvé du matos là dans sa poche.
Le jeune homme n'oppose aucune résistance. Il est menotté sur le champ. Son complice essaye d'attendrir l'inspecteur.
Mais moi, j'étais pas au courant. Je ne savais rien. Je suis juste passé le prendre, c'est tout.
Les policiers ratissent les bas-côtés à la recherche d'autres doses.
Vous avez bien regardé ici? Vous êtes sûr?
Et ça paye. Alfredo met la main sur de drôles de bonbons.
Tout ça, c'est de la drogue. De l'héroïne. Ça, c'est du crack. Et là, encore de l'héroïne. Encore de l'héroïne.
C'est une réussite. Les policiers ont eu du flair.
On a trouvé le comportement des deux types sur le scooter vraiment étrange. Et puis mon collègue avait déjà vu le passager au commissariat. Il est connu chez nous. Alors on les a suivis et on a réussi à les bloquer. Le jeune a voulu se débarrasser de la drogue, mais il n'y est pas arrivé.
La chasse a été bonne. En moins d'une heure, la brigade a saisi pour plus de 700 euros d'héroïne et de crack. Direction le commissariat.
Allez, ça c'est fait.
2 à 0 pour la police.
Anche per oggi, viva la polizia. Vai.
Celui qui portait la drogue n'a pas 25 ans, mais son casier est déjà bien garni.
Assieds-toi.
Pour la police, c'est un professionnel du deal. Ce soir, il dormira derrière les barreaux. Il risque jusqu'à 6 ans de prison.
Moi, je suis plutôt décontracté. Je connaissais les risques.
Tu sais ce que tu encours ?
4, 5, 6 ans de prison au moins.
Tu connais la prison ?
Non, je ne suis jamais allé en prison.
Alors, mesdames, elle est où la famille ?
Il joue les durs, mais sa compagne, elle, est anéantie. Il lui remet son alliance. Et pour la première fois, il perd pied. Il semble avoir compris la gravité de sa situation. Quand on parle de drogue à Naples, le nom d'un quartier revient inlassablement. Scampia. Direction l'extrême nord de la ville. Une zone de non-droit où la mafia règne en maître. Scampia, ça veut dire terrain vague en napolitain. Le choc est immédiat.
C'est incroyable.
Une atmosphère de fin du monde. Une ville fantôme qui rappelle presque Tchernobyl. Dans les années 2000, Scampia a été la plus grande place de deal d'Europe. Une forteresse aux mains de la Camorra, la mafia locale. Gêné par la police, le gros du trafic s'est déplacé ces dernières années vers d'autres quartiers. Dans la cité idéale construite à la fin des années 60, il ne reste que chaos et misère. J'ai rendez-vous au commissariat de Scampia.
C'est vraiment château fort. Forteresse au milieu de nulle part. Avec les grilles, c'est incroyable. Ils se protègent. drôle d'atmosphère, quand même. Hein.
Enchanté. Bonjour. Moi, c'est Antonello.
Le brigadier chef Noli, dit Oniro, c'est la mémoire de la maison. Il travaille ici depuis 16 ans. La reconquête du quartier, il y a participé. Je l'accompagne dans sa maraude.
Je peux te dire que t'es ouf. C'est pas fait pour faire de la route hein, et du tourisme.
Je n'ai pas le choix, je prends la place du prisonnier.
On va descendre ici, dans la voile bleue. Vas-y, tourne.
Première étape, un haut lieu du Dilas Campia, la voile bleue. Les bâtiments défoncés en forme de voile de bateau sont devenus le symbole du quartier, grâce à Gomorra. Gomorra, un livre, un film, une série qui ont fait le tour du monde et qui raconte la mafia napolitaine de l'intérieur. Au début des années 2000, les clans mafieux ont transformé le quartier en supermarché de la drogue. Aujourd'hui, les policiers ont repris la main. L'objectif, maintenir la pression sur les trafiquants. Apparemment, nous ne sommes pas les bienvenus.
Ça, c'est incroyable, ça. Regarde ça. Incroyable. Tirer une prison désaffectée, on ne sait pas où on est.
À peine passé le hall d'entrée, tout est saccagé. Les seringues sont encore pleines de sang. Et je n'ai encore rien vu. Nous descendons dans les entrailles de l'immeuble.
C'est un tapis de seringues, là. Il n'y a que ça. Que des seringues mélangées à des gravats. Regarde. C'est que ça, que des seringues. Incroyable.
Plus bas, un homme vient de s'injecter une dose. Antonello décide d'aller lui parler.
Oh, jeune! Donne-moi tes papiers, s'il te plaît.
Ici, les toxicomanes ont leurs habitudes. Ils viennent de toute la région. À 10 mètres de nous, un autre homme se prépare un shoot. Mais pour l'officier de police, les consommateurs ne sont pas la priorité.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire là ?
Je suis venu me faire une dose. Je me drogue pas tous les jours d'habitude. Mais en ce moment, je ne vais pas bien.
Je peux vous demander ce que vous avez sur l'oreille, là ?
Sur l'aile ?
Là.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Une dose. Une dose. Ça coûte combien, une dose ?
13 euros.
13 euros ?
13 euros. C'est le ticket d'entrée pour acheter de l'héroïne à Naples. La consommation de ce poison coupé à plus de 90% est en plein boom. L'homme est prié de quitter les lieux. Il ne sera pas inquiété. Les policiers lui confisqueront juste sa seringue.
Ce monsieur, c'est juste un pauvre type. Il s'était déjà injecté la drogue. Il n'avait plus rien sur lui. S'il avait eu de la drogue dans ses poches, on aurait pu l'embarquer, mais là, on ne peut rien faire.
Les enfants jouent au milieu des tours en ruine, car il y a encore des habitants à la voile bleue. Impossible de savoir combien.
Je vous en prie, rentrez.
Les policiers veulent me présenter une résidente, Mariella.
Ah, attention.
Avec son fils, il squatte cette tour depuis 6 ans. Comme dans beaucoup de familles ici, l'homme est en prison. Seule, Mariella essaye tant bien que mal de mener une vie normale.
Mimiki.
Tout mignon.
Et c'est très joli ici. Il fait chaud, il fait bon. C'est très différent de ce qui se passe dehors, quand on se promène dans l'immeuble.
Oui, c'est vrai. Et quand mes amis viennent me voir, ils ont peur, car tout est pourri dans l'immeuble. On vit ici, car on n'a pas d'argent. On n'a nulle part où aller. L'État ne nous aide pas. Ici, avec un enfant, on ne peut pas vivre décemment.
Avec un père derrière les barreaux et un oncle qui a passé l'essentiel de sa vie en prison, je me demande bien quel avenir attend ce petit garçon.
C'est hallucinant. T'as l'impression que c'est complètement abandonné et en même temps, t'as de la vie partout. Puis t'as cette bulle là chez cette dame, cet appartement super cosy. Et juste à côté, t'as les endroits où on était avec des fenêtres cassées. C'est surréaliste. On dirait un décor de film, on dirait une prison. Je sais pas ce qu'ils nous disent. Pas pourquoi ils sifflent de partout, là on va peut-être y aller. Hein.
La nuit est tombée. Nous nous enfonçons au cœur du ghetto. Il y a peu, la police n'osait pas s'aventurer jusque-là. Mais la zone reste dangereuse. C'est toujours la base arrière d'un des clans les plus violents de Scampia.
Là, c'est le fief du clan d'Ilaoro. On l'a baptisé le tiers-monde. Dans ces immeubles, le trafic ne s'arrêtait jamais. C'était du 24 heures sur 24. L'État a remporté une victoire ici. Et même s'il est arrivé un peu tard, il a vraiment mis les grands moyens. Il a montré sa force.
Mais c'est une victoire toute relative. Le trafic continue et la police doit sans cesse occuper le terrain.
Attends, recule.
Sous ce porche, dans l'obscurité, deux hommes en scooter. Leur profil et leur attitude semblent louches aux yeux du policier qui décide de les contrôler.
Regarde ce que j'ai trouvé là. Il y a combien ?
5 000.
5 000 € en liquide. Et ce n'est pas fini.
Et ces billets là, il y a combien ?
3 700, presque 4 000.
Et tu te balades avec tout ça ?
Près de 10 000 € en liquide. De quoi éveiller les soupçons. Et il y a autre chose. Sous la selle du scooter, une dizaine de téléphones neufs prêts à l'emploi. Argent liquide, téléphone portable, le kit parfait du trafiquant. Antonello n'a pas de doute, les deux individus ne partaient pas en promenade, ils ont quelque chose à cacher. Vous cherchez quoi ?
Qu'est-ce que je cherche ? Ce sont des gars du clan d'Ilaoro. Des vrais criminels. Ici, ils sont chez eux. Ils se connaissent tous. Je suis sûr qu'ils préparent un coup, mais je ne peux rien faire. On pourrait saisir l'argent liquide, le mettre sous scellé, mais si on n'a rien d'autre contre eux, c'est inutile.
Un coup d'épée dans l'eau pour l'officier de police. Aucune arme, aucune drogue, pas de flagrant délit. Rien ne lui permet de les arrêter.
Tu t'en sors bien cette fois, hein? Et toi aussi, tu t'en sors bien. Vous avez eu de la chance, les gars. Allez, au revoir. Et pourtant, je suis vraiment sûr que ce sont des mecs du clan. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire.
Il s'en est fallu de peu, mais cette fois, la police a perdu la partie. Ce n'est pas fini. Je reviendrai à Scampia. La lutte contre la mafia est une guerre d'usure dans laquelle, parfois, la balance penche du côté des justes. Des hommes s'engagent pour traquer les mafieux au péril de leur vie. Dans quelques secondes, la voiture frôlera les 200 à l'heure. La berline est blindée. À l'avant, deux gardes du corps armés. À l'arrière, Cesare Sirignano, l'ennemi juré de la Camorra, la pègre de Naples.
Dis-moi, je te confirme l'interrogatoire. Alors on se voit demain après-midi.
Cesare Sirignano est procureur à la direction antimafia de Naples. Son père voulait en faire un notaire. Lui a préféré lutter contre le crime organisé. Et depuis 8 ans, il vit sous escorte. Le magistrat se rend au tribunal pour un dernier round. L'ultime audience d'un procès dans lequel il a mis à genoux l'une des plus grandes familles de la Camorra, les Casalesi. Trafic de drogue, déchets toxiques, extorsion. Difficile de savoir combien de milliards d'euros le clan a brassé tout au long de son règne, qui a duré plus de 30 ans.
On ne peut pas dire que le clan ait totalement disparu. Mais notre travail l'a beaucoup affaibli. Aujourd'hui, de nombreux membres de son organisation sont derrière les barreaux, et parmi eux, des chefs. Les grands chefs. On leur a pris aussi des sommes d'argent considérables. En confisquant leurs biens, on a réussi à toucher à leur patrimoine. Mais le clan n'est pas détruit pour autant.
Plus on approche du tribunal, plus le quartier ressemble à un camp retranché. Gendarmes, militaires, le palais de justice transformé en bunker trône au cœur du territoire des Casalesi. Aujourd'hui, c'est l'épilogue d'un dossier gigantesque, un maxi-procès baptisé Spartacus. Il aura fallu 12 ans à la justice italienne pour faire tomber les 3 principaux boss du clan des Casalesi. Je retrouve le magistrat juste avant l'audience.
Attention, ça commence.
C'est le petit dernier qui est jugé. Oreste Iovine, 22 ans. Son père, le dernier grand baron des Casalesi, lui avait donné les clés du clan après son arrestation.
Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est le crime organisé?
Aujourd'hui, Oreste Iovine, le fils d'Antonio Iovine, devra répondre de plusieurs chefs d'inculpation. Il est accusé, entre autres, d'association mafieuse, de trafic de drogue et d'extorsion. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses pour un homme si jeune. Car il ne faut pas oublier que Oreste Iovine, c'est un jeune homme. Il a à peine 22 ans.
Le jeune homme est sous les verrous, mais il n'assistera pas à son procès. C'est un droit en Italie, même pour les mafieux. Seule son avocate a fait le déplacement. La cellule où s'assoient les accusés restera vide tout au long de la journée, comme une dernière pirouette au nez des magistrats.
C'est quand même super bizarre, c'est que non seulement il n'y a pas grand monde dans la salle, alors que c'est censé être le dernier du clan Casalesi. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Procureur, ministère public, partie civile, il n'est pas là. assez étrange quand même. Hein.
Dans une petite salle sans public, le procureur entame son réquisitoire. Sans passion, sans effet de manche, devant un jury, somnolent. Comme si la justice italienne était lasse de cette guerre qui dure depuis des décennies.
Tous les membres du clan obéissaient au fils d'Antonio Iovine. C'est désormais lui qui gère les relations avec les entreprises du clan. C'est lui en personne qui encaisse les pots de vin. Jusqu'à 180 000 euros. Il est l'héritier de Onino, le chef historique des Casalesi, le patron depuis 1998 de l'organisation la plus dangereuse d'Italie.
Un clan sanguinaire, avec aux commandes un étudiant en droit. Pour mettre définitivement l'organisation hors d'état de nuire, le procureur insiste sur les responsabilités du fils.
On se rend bien compte, en épluchant les activités du fils, qu'il s'est affranchi de son père. Les affaires de drogue, par exemple. Le clan des Casalesi en a toujours interdit le trafic sur son territoire. Pourtant, on voit le jeune Oreste Iovine, qui n'a jusqu'alors aucun passé criminel, commencer à vendre de la drogue. C'est cette activité qui nous permet d'affirmer que c'est bien un camorriste. Parce que c'est lui qui a mis en place ce trafic, et il l'a mis en place pour le compte des Casalesi.
Le jury part s'isoler. Quatre heures plus tard, dans une salle encore plus vide, il rend son verdict.
Je vous délivre la sentence pour Oreste Iovine. Au nom du peuple italien, l'accusé est condamné à 4 ans de réclusion et 4000 euros d'amende.
La peine n'est pas très lourde. Le tribunal a pris en compte la courte carrière du fils et ses révélations sur le fonctionnement du clan. Le père, lui, a écopé de la perpétuité. Depuis sa prison, il collabore avec la justice. C'est un repenti. Le procès des Casalesi, c'est l'affaire de sa carrière. Ce jeune magistrat a donné 8 ans de sa vie à ce dossier. Les lampistes comme les barons, il les a entendus pendant des heures dans ce bureau. C'est là qu'ils se sont mis à table.
Comment ça se passe, les interrogatoires? Qui s'est assis là, par exemple, en face de vous?
Dans mon bureau, j'interroge des membres de la Camorra. Certains viennent se défendre des accusations portées par mon équipe. D'autres sont des repentis qui ont décidé de collaborer avec la justice. Ces gens-là sont souvent violents. Ils ne respectent pas l'autorité et vivent selon leurs propres règles.
Quand vous procédez à ces interrogatoires, est-ce qu'il y a une certaine tension ?
Notre but, c'est d'obtenir des aveux. S'ils n'avouent pas leurs crimes, s'ils refusent de collaborer, alors c'est un devoir pour nous de creuser en profondeur. Nous avons parfois recours à des méthodes plus dures.
Il y a un portrait du juge Falcone et du juge Borsalino. Pourquoi c'est dans votre bureau? Est-ce que c'est une façon de vous rappeler que ça a été des exemples, qu'en même temps, ils ont eu une fin tragique? Pourquoi il y a ce tableau-là?
Falcone et Borsellino, en Italie, sont les symboles de la lutte antimafia. Je les ai affichés ici, dans mon bureau, car je continue à croire en leur idéal. C'est aussi pour ne pas oublier qu'ils ont donné leur vie pour l'État et qu'ils en sont les héros.
Mais est-ce que parfois il vous arrive de penser qu'un jour vous pourriez avoir la même fin tragique ?
J'espère que ça n'arrivera pas. Je crois qu'on a changé d'époque. Nous ne sommes plus dans les années 90, quand la mafia perpétuait des massacres. Aujourd'hui, les choses sont différentes.
En Italie, pour leur sécurité, les juges ne peuvent pas lutter plus de 10 ans contre la mafia. Cesare Sirignano a encore 2 années à tenir avant de redevenir un magistrat normal. En mettant la pression sur les clans, la justice et la police contraignent la mafia à se redéployer sans cesse. Même les beaux quartiers ne sont plus à l'abri. Giuseppe Grimaldi est journaliste dans le plus vieux quotidien de Naples. Il écrit la chronique noire de la ville, la rubrique des faits divers, depuis plus de 20 ans. Il a vu le crime organisé changer de visage et ses barons s'entretuer pour de nouveaux territoires.
Ici, nous sommes au Vomero, au cœur d'un quartier bourgeois très commerçant, traditionnellement étranger à la Camorra. Jusque-là, la Camorra ne s'est jamais vraiment implantée ici. Aujourd'hui, elle commence à s'intéresser à ce quartier. Regardez là-bas, il y a des impacts de balles sur la vitrine. Ici.
Les tirs d'intimidation se multiplient dans la zone.
Il y en a un autre ici. Ça tire à toute heure du jour et de la nuit. C'est comme ça qu'ils marquent leur territoire, comme des bêtes féroces. Ce sont des démonstrations de force, comme pour dire « on est chez nous ici, on est arrivé ». C'est un peu comme dans le Far West.
Depuis que leurs chefs sont en prison, les clans sont à la dérive, c'est l'anarchie. Ils s'affrontent en pleine rue. Les murs portent les stigmates d'une guerre sans fin, dans laquelle les mafieux tuent même des enfants.
Une fillette a été assassinée ici, en bas de chez elle. Elle habitait ici. Des tueurs sont arrivés au bout de la rue. À côté de la petite fille, il y avait un mafieux, Salvatore Giuliano. Quand Giuliano a vu les camorristes, il a tout de suite compris qu'il venait pour le tuer. Alors il s'est emparé de la fillette et s'en est servi de bouclier. Dans l'échange de tir, elle a reçu une balle en plein visage.
Annalisa est morte sur le coup. Le mafieux, lui, vieillit en prison. Depuis plus d'un siècle, le quotidien Il Mattino relate cette danse macabre de Naples avec le crime. Ici, la rubrique des faits divers a autant de succès que les pages de sport. Giuseppe m'ouvre les archives de son journal. Pour avoir voulu enquêter sur la Camorra, sa rédaction a payé le prix fort.
Alors on va prendre les années 1984...
1984
et
1985. Merci. Ok. C'était en septembre 1985, en fait. Siani était un jeune journaliste de la rédaction. Il enquêtait sur la Camorra. Il a payé de sa vie son courage et sa quête de vérité. Alors qu'il rentrait à la maison après une journée de travail, au moment de se garer en bas de chez lui, il a été criblé de balles par 2 tueurs.
Dix balles en pleine tête. Les tueurs ne lui ont laissé aucune chance. Une exécution pour laquelle il n'avait négligé aucun détail.
Ils avaient préparé son assassinat avec beaucoup de soin. On a su par la suite que pendant 15 jours, ils l'avaient surveillé en se cachant derrière les colonnes, en face du journal. Ils notaient tous les faits et gestes de Siani, à quelle heure il arrivait, à quelle heure il partait, quel chemin il empruntait. C'était un vrai travail de professionnel.
Donc vous n'êtes pas protégé par la police, mais vous avez reçu des menaces ?
Oui, des menaces plus ou moins précises, plus ou moins graves, mais par chance, jamais suivies de conséquences.
Pour lui, aujourd'hui, on assiste à une mutation de la menace mafieuse. Affaiblis, les clans qui dominaient la ville ont laissé la place aux jeunes. Des jeunes qui s'affranchissent des codes traditionnels de la mafia.
À l'époque, il n'y avait que 3 ou 4 familles mafieuses très puissantes qui se faisaient la guerre. Aujourd'hui, à Naples, il y a 140 clans. 80 rien que dans le centre-ville. La Camorra, qui avait une structure verticale, est devenue horizontale, très fragmentée. Aujourd'hui, si 4 jeunes avec des armes décident de conquérir un quartier pour y vendre de la drogue, ça y est, ils forment un clan. Évidemment, de l'autre côté de la rue, un autre clan va se créer. Et tôt ou tard, ils se feront la guerre.
Oui, donc c'est plus du tout structuré, en fait. C'est plein de petits... c'est comme avec des tentacules.
Absolument.
Des petits clans partout.
Exact.
Ouais, ouais.
Pour faire face à cette nouvelle menace, Naples a renforcé sa sécurité. Présence accrue des forces de l'ordre dans le centre-ville, militaires, policiers, et ça a l'air de marcher. Les petits braquages, les vols à la tire sont en baisse et le nombre d'arrestations bat des records. Direction le nord-est de la ville, la prison de Poggio Reale. Poggio Reale, c'est le plus vieux centre pénitentiaire de Naples. Inauguré en 1914, il devait accueillir 1400 détenus. En réalité, très vite, 3000 prisonniers se sont entassés là, que des hommes en attente de jugement ou déjà condamnés. Jusqu'à 15 dans des cellules prévues pour 6. Il est 7h du matin. Comme tous les jours, les familles se pressent devant les portes. Il y a quelqu'un de votre famille ici ?
Je viens voir mon fils.
Quel âge a-t-il ?
Il a 36 ans.
Pourquoi est-il en prison ?
Il a vendu de la drogue.
Où ça ? À Naples ?
Ici, à Scampia.
Qu'est-ce que vous lui avez apporté ?
Je lui ai apporté un petit sac. Toujours la même chose. Regardez, des sous-vêtements, des caleçons, des affaires qui lui sont utiles.
Après l'attente dehors, une nouvelle attente commence, dans le sas. Ces images sont rares, on dirait presque une gare de triage. Comme à chaque visite, c'est la pesée des sacs. 20 kilos par détenu et par mois, pas un gramme de plus. Le rituel agace ce jeune homme. Venu voir son père, il lui a peut-être apporté trop à manger.
Allez, je prends un morceau de fromage. 1 et 2, et ça fait 300 grammes ça. Allez. Ça, c'est du parmesan. Et je le jette. Regardez, il est content. Avec ça, on a résolu le problème de l'administration italienne.
Le parloir est encore loin. L'appel des familles commence.
Romano Angelo. Romano.
À Poggio Reale, les visiteurs sont surtout des visiteuses. Jeunes mamans, épouses ou filles de détenus, prisonnières à leur tour de la routine carcérale. Elles peuvent perdre toute la journée pour une heure de parloir. Maintenant, j'entre vraiment dans Poggio Reale.
Bonjour, monsieur.
Ici, les caméras ne sont pas les bienvenues. Mais le directeur tient à réhabiliter l'image de sa prison. Il veut nous prouver qu'aujourd'hui, la surpopulation, c'est de l'histoire ancienne. Derrière ces murs se côtoie tout le crime de Naples. Membres de clans, mais aussi petits braqueurs. Poggio Reale est à l'image de la ville. Ses histoires s'entremêlent, les hommes s'observent, tout se sait, mais la parole n'est pas libre.
Cette prison existe depuis une centaine d'années. Ici, il y a tous les types de prisonniers. Nous avons des détenus de droit commun, incarcérés pour des délits comme les vols, les braquages, etc.
Et il y a des membres de la Camorra qui sont emprisonnés ici ?
Dans le quartier de haute sécurité, nous avons 250 détenus qui appartiennent au crime organisé.
Voilà l'aile de la mafia locale, justement.
Le département haute sécurité.
Ici, c'est le quartier de la Camorra. Je n'y aurai pas accès. La consigne de la direction est sans appel. Pas question de donner la parole aux mafieux.
C'est là.
Nous, on va au département Salerne.
Ici sont enfermés les autres prisonniers. On me laisse rencontrer Fabio. C'est un droit commun, pas un mafieux. Il a 24 ans. Il est condamné pour homicide.
Ça fait combien de temps que vous êtes en prison ?
Ça fait à peu près 2 ans.
Et encore combien de temps ?
Jusqu'en 2029.
2029 ? D'accord. Est-ce que avant d'être incarcéré, vous aviez déjà des amis, des gens que vous connaissiez qui avaient fait de la prison ?
Oui. Ici, dans cette ville, dans les quartiers difficiles, car c'est là que nous vivons, on a presque tous des proches qui ont fait de la prison.
On a l'impression que chez les jeunes, c'est un peu une fatalité, la prison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que c'est la ville de Naples qui veut ça aussi ?
Pour moi, c'était vraiment comme une fatalité. Par exemple, dans ma famille, mon père a fait plus de 60 ans de prison. Sa captivité m'a permis de comprendre que la prison, c'était vraiment pas les vacances. Et qu'ici, on est malheureux. Moi, j'ai commis un homicide. C'était pendant une bagarre. Même si je savais que c'était l'horreur ici, j'avais le pressentiment au fond de moi qu'un jour, je finirais en prison.
Enfermés 21 heures sur 24, les détenus de Poggio Reale tournent en rond. Le foot permet de se changer les idées quelques heures. Et puis il y a le retour à la foi, un chemin qu'empruntent beaucoup de détenus pour oublier l'enfermement. Gennaro est un habitué des lieux. Il fait des allers-retours en prison depuis 20 ans pour braquage. Pour donner un sens à son incarcération, il se raccroche à la Vierge Marie.
C'est la Madone de Pompéi. Elle est très importante ici, dans cette région.
Que vous est-il arrivé ?
J'ai perdu ma jambe au travail. À 20 ans, je me suis retrouvé unijambiste. J'étais marié avec un enfant et je suis tombé dans la délinquance. Je n'avais rien pour vivre, pas de pension, et je devais manger. Donc je me suis mis à tremper dans des sales affaires. Aujourd'hui, je prie Marie tous les jours pour qu'elle veille sur moi et m'empêche de refaire des erreurs.
On l'appelle la ville aux 500 coupoles. À Naples, l'église tient un rôle central. Depuis 50 ans, elle fait la guerre à la Camorra. En 2011, le cardinal de Naples a même sorti l'arme lourde. Il a interdit les saints sacrements pour les mafieux. Une humiliation pour ces criminels qui se réclament de Dieu.
Combien de fois la peur nous guide ? Et les politiques l'ont bien compris. Je ne dis pas tous, mais certains sont de la pire espèce, comme les mafieux qui nous tuent. Il faut tourner le dos à ces gens, ne pas fermer les yeux, mais essayer de ne pas leur ressembler à ces bâtards, ces hommes répugnants. Tournons-nous vers Marie, dont l'honneur est d'être la servante de Dieu.
Cet homme, c'est Don Tonino Palmese, un prêtre de combat qui a passé sa vie à lutter contre la Camorra. Aujourd'hui, on célèbre la Vierge. C'est la fête de l'Immaculée Conception, un grand jour à Naples et une grosse journée pour le prêtre.
Tout le monde veut lui parler. C'est comme une vedette qui a fini son spectacle. Tout le monde veut lui parler, tout le monde veut lui serrer la main.
Une vedette, mais sous protection. Un gyrophare et une ligne directe avec la police. Pas grand-chose, mais c'est le maximum qu'a obtenu Don Palmese. Car à Naples, il y a trop de monde à protéger.
Le gyrophare, c'est pour ma protection. J'ai reçu plusieurs lettres de menaces pour mon engagement contre la mafia. J'ai même reçu une balle une fois. Elle nous a été envoyée à moi et au maire de ma commune. Alors on a prévenu les services de police et ils nous ont placés sous protection.
On sait que les mafieux sont très croyants, très pratiquants. La religion a beaucoup d'importance pour eux. Vous pensez qu'ils pourraient s'attaquer à un prêtre ? Ou ils n'oseraient pas ?
La mafia a déjà tué deux prêtres par le passé. Don Polisi et Don Peppino Diana. Mais elle a aussi persécuté et calomnié des prêtres. La mafia n'a aucune considération pour les hommes d'église dès lors qu'ils se mettent en travers de son chemin.
La grand-messe, aujourd'hui Don Tonino doit la célébrer dans le centre historique de Naples. Dans les ruelles de la ville, la Vierge Marie est omniprésente. Les Napolitains lui vouent un véritable culte. Mais son image est détournée par les mafieux.
Bonjour les amis. Vous voyez, ces gens sont tous des parents de victimes de la Camorra.
Autour de moi, tous les fidèles venus écouter le prêtre ont soit perdu un proche, soit échappé au bal de la Camorra. Dans la sacristie de l'une des plus prestigieuses églises de la ville, Don Palmese remet ses habits de prêtre anti-mafia. Il porte son aube comme une armure pour affronter la Camorra et resserrer les rangs de ceux qui la combattent.
On se rassemble pour réfléchir non seulement sur la mafia, mais aussi sur l'importance de la lutte contre la mafia. Le plus noble dans notre combat, c'est la solidarité qu'on a su créer entre les familles de victimes.
À Naples, cette solidarité passe par la commémoration, pour rester debout face au crime.
Comment est-il possible que la Madone soit l'objet de tant de dévotion chez les mafieux? Eh bien, c'est pour justifier leur crime qu'ils se cachent derrière l'image de cette femme qui porte une couronne. Je voudrais saluer la présence des parents de victimes de la Camorra. On les salue.
L'homme qui le rejoint sur l'autel a perdu un fils, assassiné car il avait été confondu avec un camorriste, une victime innocente de la lutte des clans.
Que dire? C'est un moment de grande émotion. En tant que parent, je pense à la Vierge Marie. C'est elle qui nous accompagne dans notre vie plus que quiconque. Car elle aussi, en perdant son fils, a vécu la même chose que nous, la même injustice. Comme toutes ces mères de victimes innocentes présentes ici ce matin.
Grâce à Don Palmese, les parents de victimes brisent la loi du silence et osent se dresser contre la mafia.
Que représente Don Antonino pour vous? Qu'est-ce qu'il est? Il porte finalement votre parole, il porte votre combat aussi?
Il nous a aidés à trouver la force pour transformer notre douleur, notre rage, en engagement. Nous allons dans les écoles, dans les universités, car peut-être qu'en racontant nos histoires à tous, nous réussirons à faire naître au sein de la société la volonté de se débarrasser des mafias.
Prêche après prêche, infatigable, Don Palmese frappe les esprits et appelle à la lutte. Pour le soutenir, le juge antimafia de Calabre est venu à la messe, encadré de son escorte. Dans ce combat, la justice et l'Église sont main dans la main. Naples ne m'a pas encore révélé tous ses secrets. Je descendrai à la morgue où sont conservés les cadavres des victimes de la Camorra. Je retournerai traquer les dealers avec les policiers de Scampia. Ils me montreront comment les clans ont fait du ghetto un supermarché de la drogue. Je rencontrerai un éducateur aux méthodes musclées qui remet les anciens taulards sur les rails. Et je sillonnerai les terres de feu sur la piste des déchets de la honte qui tuent aussi les enfants. Le jour se lève sur Naples. Direction le plus grand centre hospitalier de la ville, dans le quartier de Pianura. J'ai rendez-vous au département de médecine légale.
Bonjour, bonjour, professeur.
Le professeur Massimo Niola est le responsable de la morgue.
Guarda, c'ho strada io.
Ok.
Il m'emmène au sous-sol, là où les légistes font parler les cadavres. L'endroit est sinistre.
Ah, là, ça sent fort. Ça sent très très fort, très désagréable.
C'est ici que sont autopsiés les corps des personnes assassinées dans la région. Des hommes et des femmes tués par balles ou à l'arme blanche, dont les dépouilles sont gardées au frais en attendant que la justice autorise leur enterrement.
Est-ce qu'on vous précise quand ce sont des crimes liés à la mafia ?
Oui, bien sûr. Notamment quand il s'agit de morts par balles.
Et est-ce que les clans, la mafia, a des modes opératoires très précis ?
Effectivement, parfois on retrouve des caractéristiques communes à plusieurs homicides. Et cela nous permet de relier les meurtres entre eux.
Souvent, la Camorra tue par balle. Est-ce que vous avez déjà vu des balles derrière la nuque ? Parce qu'on dit souvent que c'est comme ça qu'elle termine les exécutions.
Oui, bien sûr. Il m'est arrivé de voir ce genre de choses, mais quant à savoir si c'est signé de la Camorra, ça c'est plutôt le travail d'enquête des policiers. Le travail de médecine légale se limite à suggérer et à aider les forces de l'ordre et le magistrat à mieux comprendre quelles sont les causes de la mort.
...47 meurtres cette année à Naples, soit le double de Marseille.
C'est assez glauque, en fait. On ne sent pas très bien quand on est là.
Il est temps de partir.
J'y passerai pas plus de 2 heures, je crois.
Retour à l'air libre, à Scampia. Dans ce no man's land, les jours se suivent et se ressemblent. Les dealers vendent leur drogue et la police maintient la pression. Je retrouve la brigade d'investigation pour une nouvelle maraude.
Allez, on va voir si on a de la chance aujourd'hui.
Premier immeuble. Premier contrôle.
Vos papiers.
C'est quoi cette clé ?
Ça ? C'est la clé de chez moi.
Les hommes sont tous fouillés, car ici, le deal fait partie des mœurs. Un jeune homme est dans le viseur des policiers et il le sait.
Alors, tu l'as mise où la dope ?
Hein ?
De quoi tu me parles ? J'ai rien.
Chou blanc, il n'a rien sur lui. Enzo fouille les environs. Le petit Jésus aussi a droit à une inspection. Les policiers explorent les moindres recoins. Mais aujourd'hui, pas de miracle.
Malheureusement, on ne peut pas l'arrêter, même si on sait que c'est lui le dealer du coin. Mais tôt ou tard, il ira en prison, pas vrai ?
Qu'est-ce que tu veux faire ? Ici, il n'y a pas de travail, c'est la galère.
Mais tu ne cherches même pas un travail. Tu restes là du matin au soir, et en plus tu gagnes de l'argent. Et tu veux me faire croire que tu cherches du travail ?
Laisse tomber, c'est pareil pour tout le monde ici. Qu'est-ce que tu veux faire ?
Tu gagnes combien ? 100 euros par jour ? Et c'était encore mieux avant la guerre des clans, non ?
Avant, oui, on gagnait beaucoup.
Tu prenais combien par jour ? 300 euros ?
La conversation est ahurissante. Le jeune homme reconnaît à demi-mot vendre de la drogue. Il avoue même qu'il gagnait plus d'argent avant.
Ici, tu ne peux trouver que des jobs à 50 euros par semaine. Ça vaut même pas le coup de travailler.
Et tu accepterais un boulot à 3000 euros ? Tu le prendrais ?
Un travail honnête à 3000 euros par mois, tu rigoles ? Ça n'existe pas. C'est la crise ici, il n'y a rien.
Dans ce quartier, beaucoup de familles vivent au crochet de la drogue.
Mais qu'est-ce que tu fais là-bas à parler avec ces gens ? Vous savez bien ce qu'il fait, mon fils, non ? Vous voulez que je vous fasse un dessin ?
Un non-dit qui a le goût d'un aveu. À Scampia, on s'est résigné à vivre avec la Camorra, à vendre sa drogue et à finir derrière les barreaux. Les policiers s'en amuseraient presque.
Je vous présente les prochains dealers du quartier. Et c'est nous qui les arrêterons quand ils seront un peu plus grands. 1, 2, 3, 4, eux menottés devant et nous derrière.
Pour ces deux flics, les gamins sont déjà condamnés. Entre le fatalisme des habitants et le cynisme des policiers, je me demande ce qui fait le plus de dégâts à Scampia. Retour au voile, l'emblème du quartier. Les policiers essaient de ne pas se faire repérer. Ils ont besoin d'un flagrant délit. Au bas des escaliers, un homme est interpellé. Il a été surpris en possession de drogue.
C'est de l'héroïne. Tu as autre chose sur toi ?
Non, j'ai rien d'autre. Je viens de me l'injecter.
L'homme prétend être un simple consommateur. Comme toujours. Seulement en fouillant les alentours, les policiers vont trouver un petit sac plastique bien caché, avec d'autres doses à l'intérieur. Pour eux, pas de doute, l'homme n'est pas un simple toxicomane, c'est aussi un dealer.
Ça, c'est de l'héroïne. Et le petit tube rouge, là, c'est de la cocaïne.
Dans cette voiture brûlée, il trouve un kit de shoot.
Ils utilisent le miroir pour se piquer à la gorge. Ils se regardent comme ça et ils se font l'injection.
L'interpellation est rondement menée. Les flagrants délits de trafic de drogue sont des opérations difficiles à réaliser pour les policiers. L'homme est tout de suite emmené au poste.
Mets-toi là, contre le mur.
Récidiviste, le prévenu écopera de 2 ans de prison ferme pour trafic d'héroïne. Leur supérieur est satisfait. Lorenzo Stabile est inspecteur au commissariat de Scampia depuis 1997. À la brigade, c'est lui le patron. En 2011, Lorenzo Stabile a lancé l'opération Muren. Un joli coup de filet pour son service. Ces hommes ont fait tomber une organisation très structurée. Barricadé dans un hall d'immeuble, un clan de Scampia avait mis en place une véritable cash machine.
Vous voyez ici, le dealer est en train de compter sa recette. Ça a été une opération déterminante pour nous. Elle nous a permis d'arrêter 33 trafiquants. Pour avoir ces images, on a installé une caméra cachée juste au-dessus du dealer. C'est celle-là, la caméra. On l'avait cachée dans le mur, à côté de la porte. Ce système nous a permis d'enregistrer toute l'activité de deal. À gauche de l'écran, on voit la fente. L'acheteur passe la main pour donner l'argent. Le dealer prend les billets et donne la dose en échange. Et l'opération se répète. C'est comme un distributeur. Les trafiquants vendaient à peu près 4000 doses par jour ici. À 13 euros la dose, ça fait de 40 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par jour.
Des sommes colossales et un trafic ultra organisé. Des quantités astronomiques de drogue se sont écoulées en bas des tours de Scampia. C'est toute une génération du quartier qui a mouillé dans le trafic et qui croupit aujourd'hui en prison. Antonello, le brigadier qui m'a fait faire mes premiers pas à Scampia, tient à me présenter un ancien dealer. Ce n'est pas un ami, mais il le connaît bien. Il l'a arrêté à plusieurs reprises. La fouille, c'est pour la forme. Crack, héro, coke, le jeune homme a vendu de tout dans les cash-machines de la Camorra. À 29 ans, il en a déjà passé 15 derrière les barreaux.
Pour qu'on comprenne bien comment ça marche au départ, comment le deal se met en place.
L'acheteur ne voit pas qui lui vend la drogue, mais nous on le voit. Il achète sa dose à 10 euros, nous on reverse au clan 9 euros et on en garde un. Les doses sont déjà préparées par petits paquets. On en vendait près de 300 chaque jour.
Est-ce que vous aviez un salaire fixe par la Camorra ?
La Camorra ne verse pas de salaire. Parce que si tu te trompes, c'est toi qui dois payer. Il faut obéir aux ordres, car à la moindre erreur, tu risques gros.
Vous avez été en prison. On dit que souvent la Camorra aide les membres de la Camorra qui se font arrêter, aide d'une façon ou d'une autre, avec de l'argent. Est-ce qu'ils vous ont aidé ?
Non. Personne ne t'aide. On ne peut compter que sur sa famille. Pour les clans, tu es juste un pion, et une fois en prison, tu n'es plus personne.
Et quand tu es sorti de prison, là, au mois de mars, ils sont revenus te voir ? Ils t'ont demandé de retravailler pour eux ?
En sortant de prison, c'est moi qui ai pris tout seul la décision d'arrêter. Je me suis rendu compte que j'étais en train de foutre ma vie en l'air.
J'ai envie de le croire. Mais de quoi peut-il vivre dans le ghetto ? Il n'y a pas de travail ici. On ne change pas de vie facilement à Scampia, il faut de l'aide. Et ils sont rares ceux qui proposent un autre chemin. À quelques mètres du commissariat, une salle de sport résonne. Ici, on enchaîne les prises. Et celui qui donne le tempo, c'est Gianni Madaloni. On l'appelle le maître. 10 ans qu'il enseigne les arts martiaux à Scampia. Dans son local, Gianni lutte à sa manière contre la délinquance. Il a fait du judo une arme de prévention pour dissuader les jeunes du quartier de déraper. Et pour ceux qui ont franchi la ligne rouge, son gymnase est un outil de réinsertion, une deuxième chance. Chiro et Alessandro sont deux anciens dealers du quartier. Après plusieurs années de prison, le juge les a autorisés à purger leur fin de peine chez Gianni, en liberté conditionnelle.
Bon, les gars, vous m'enlevez ce matériel. Dis-moi, toi, tu peux sortir de la juridiction sans problème ? Et toi, tu ne peux pas sortir de Naples, c'est ça ? Ok. Donc surtout, vous me prenez bien les mesures, parce que demain, il faut que vous m'enleviez cette machine. Il faut absolument que ça dégage.
Des coupes et des médailles, il en a gagné beaucoup. Mais sa grande fierté aujourd'hui, c'est son engagement pour la réinsertion. Dans son bureau, Gianni tient un registre des prisonniers qu'il a remis sur les rails.
Ce sont les libertés conditionnelles. Il y en a un paquet.
Ça fait près de 6 ans qu'il accueille des prisonniers. Encadré par l'administration judiciaire, c'est lui qui se porte garant de leur bonne conduite.
Il faut les aider, ces gens-là. Ici, c'est très simple. Ou tu changes, ou tu changes. Moi, je parle gentiment aux gens. Mais si je m'aperçois qu'ils ne jouent pas le jeu, alors je change d'attitude. Et crois-moi, ça chauffe.
Rigueur et fermeté. Mais pour se battre contre la délinquance, le maître est un peu seul.
Sur une armée de 3000 délinquants, il n'y en a que 30 qui sont irrécupérables. Les autres, tu peux les remettre dans le droit chemin. Mais c'est l'État qui devrait s'en occuper. Moi, je les accueille et l'État ne me donne même pas un euro. C'est à moi de me débrouiller tout seul. À moi de remplacer l'État. L'État, en fait, c'est moi. Car moi, je suis conscient. Moi, j'ai une éthique. Si on veut vaincre ce virus qu'est la criminalité, il faut miser sur des hommes justes, comme moi. Et il y en a beaucoup, des gens comme moi.
Ciro et Alessandro sont de bons exemples. Après plusieurs années de prison, ils ont décidé de tourner la page.
Ima, lève bien les coudes. Vas-y.
Attends, je t'aide.
Coach, agent d'entretien, ils sont embauchés comme hommes à tout faire. En échange de leur travail, Gianni leur permet de se racheter une conduite. Avant son arrestation, Alessandro dealait au milieu des tours de Scampia. Pendant près de 5 ans, il a gravi les échelons de la hiérarchie mafieuse jusqu'à gagner beaucoup d'argent.
Tout petit, j'étais fasciné par cette vie-là. L'argent facile, flamber son fric. Je gagnais à peu près 1300 euros par semaine. Certains jours, je pouvais même me faire 5000 euros. Et puis, j'ai rencontré le maître Gianni. Il m'a montré qu'il était possible de gagner sa vie sans faire de mal à personne. Avec ce boulot, je gagne 300 euros par mois. Je vis au jour le jour, j'ai juste de quoi m'acheter des cigarettes et payer l'essence de mon scooter pour venir travailler. Je gagne moins d'argent, mais j'ai l'esprit tranquille.
Toi, demain, tu ne peux pas m'accompagner. Mais en revanche, tu m'aideras pour charger le camion, ok? À demain, les gars.
Chaque soir, ils signent le registre de présence, une formalité essentielle pour leur liberté conditionnelle. Les deux hommes ont tourné le dos au clan. Grâce au travail de la police et à l'engagement des hommes justes, l'espoir semble revenir, timidement. Aujourd'hui, Scampia n'est plus un sanctuaire pour la Camorra. Mais corrompre la ville ne lui suffisait pas. La Camorra a aussi saccagé la terre. À 30 km au nord de Naples, la mafia a transformé des champs fertiles en décharges toxiques.
Ici, on entre dans le triangle de la mort.
Antonio Galozzi se bat à sa manière contre la mafia. Il est directeur régional de la plus importante ONG écologiste d'Italie. Il nous emmène dans l'arrière-pays de Naples. Une zone agricole, hier très productive, aujourd'hui sinistrée. Ici, même les routes secondaires sont devenues des décharges publiques.
Regardez là. Il y a des déchets de toutes sortes. De l'amiante, des tuyaux en plastique.
Les ordures. C'est le cauchemar de Naples.
Il y a des toilettes là, t'as vu?
Sur 200 km², deux fois la taille de Paris, la mafia a déversé des millions de tonnes de déchets. Pour ça, Elle a acheté le silence de ceux à qui appartenaient les terres.
C'est de la laine de verre.
Et sous les cendres, le problème, c'est qu'il y a aussi de l'amiante.
Quand on brûle ces déchets, un nuage noir et épais se forme dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on appelle la région la Terre de Feu, car ces fumées sont visibles de très très loin.
Depuis plus de 20 ans, la Camorra remporte les marchés du traitement des déchets en cassant les prix. Et bien sûr, elle ne recycle jamais rien. Il y a les ordures qui brûlent à ciel ouvert, et puis il y a les déchets toxiques que les criminels ont enfouis dans des fosses clandestines. L'air, les sols et les nappes phréatiques sont touchés. Une catastrophe écologique que le pouvoir n'arrive pas à enrayer. Antonio nous emmène en haut de cette décharge en forme de colline.
C'est pas la montagne sacrée, hein. C'est une montagne d'ordures.
Sous nos pieds, des ordures entassées pendant des années, qui n'ont jamais été triées, qui décantent et finissent par empoisonner la terre.
Ici, le clan des Casalesi a beaucoup déversé. Il y est parvenu avec la complicité des paysans, qui ont transformé leur terrain en décharge. Ces décharges n'étaient jamais contrôlées.
Les écologistes considèrent qu'il faudra au moins 50 ans pour dépolluer la terre, à condition que le phénomène cesse dès aujourd'hui.
Ce qu'on voit là, ça va bien au-delà de la Terre de Feu. Sous nos yeux, c'est l'apocalypse.
Des taux records de dioxines, de métaux lourds et de solvants ont été enregistrés dans les nappes phréatiques du Triangle de la Mort. Un empoisonnement à grande échelle qui met en péril l'avenir de ses enfants. Je retrouve Antonio. Il rejoint ses camarades pour une manifestation citoyenne contre la pollution. Parmi la foule qui se prépare, des femmes arborent des photos de leurs enfants morts de cancer. Depuis une dizaine d'années, les tumeurs malignes se sont multipliées de façon inquiétante dans la région. Et les enfants ne sont pas épargnés. La petite Nuncia est morte en octobre d'un cancer du cerveau.
Ma fille a fini de souffrir. Elle a lutté, lutté à n'en plus pouvoir. Et moi, je me bats pour elle. Trop de gens ont su et ils n'ont rien dit. On a acheté leur silence et nos enfants en paient les conséquences.
Pour ces mères dévastées, les responsables sont tout trouvés.
C'est le clan, la Camorra et le gouvernement. Ce sont eux. Mais on n'a pas peur d'eux. On continuera de lutter au nom de la vie, pour ceux qui sont morts et ceux qui restent, pour nos enfants. On a la rage. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? De l'amour ? De la sympathie ? Ces gens-là, ils ne pensent qu'à faire de l'argent et à s'entretuer.
Le cortège s'adresse directement aux mafieux. Casal di Principe, c'est le fief des Casalesi. Ici, manifester contre la pollution, c'est défier le clan. Aujourd'hui, les victimes n'ont plus peur des représailles. Sans cesse en quête de nouveaux territoires, la Camorra a étendu ses griffes hors de la ville et dans son sillage fait couler le sang. Direction Pagani, de l'autre côté du Vésuve. Avant de repartir pour la France, j'ai un dernier rendez-vous. Aujourd'hui, on célèbre la mémoire d'un juste, Marcello Torre. Le maire de la ville de Pagani a été assassiné il y a 34 ans. Il s'était opposé au clan mafieux dans l'attribution de marchés publics. Cette commémoration est une façon de briser le silence qui profite à la mafia. Accompagnée de ses proches et de quelques officiels, la veuve de Marcello Torre revient sur le lieu du drame pour y déposer une fleur. C'est devant chez lui que le maire de la ville a reçu 10 coups de fusil. Une exécution signée de la main de la Camorra, c'était le 11 décembre 1980.
Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Ça va, maman ?
Je vais bien, ne t'inquiète pas.
Anna Maria avait 18 ans quand son père a été assassiné. L'actuelle mère de Pagani vient déposer son écharpe sur la statuette de l'ange au pied de la stèle.
Je vous invite à vous prendre la main, quelles que soient vos croyances, car c'est une prière pour tout le monde.
Prego.
Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e non ci duri in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Amen.
Anna Maria,
oui.
Bonjour, je suis Ariane, la télévision française. À quoi ça sert de continuer à perpétuer la mémoire de votre père ? Est-ce que c'est pour faire une pression pour les politiques ? Est-ce que c'est pour faire peur aux camoristes ?
La mémoire de ces hommes justes, de ces hommes qu'on a assassinés, doit nous servir d'exemple pour avancer. Grâce à ces commémorations, on continue de dénoncer le crime organisé. C'est comme si on tapait de toutes nos forces pour se faire entendre.
Donc en fait, c'est le rôle de chacun d'entre nous.
Bien sûr. Il faut comprendre ce que sont le bien et le mal. Prendre conscience de ce qui se passe et regarder autour de nous, sans jamais fermer les yeux, car nous sommes tous concernés.
Comme une malédiction, la Camorra ne relâche jamais son emprise. Encore aujourd'hui, elle frappe au cœur de la ville et cherche à s'étendre. Face à la bête immonde, les hommes et les femmes qui mènent la lutte devront encore partir au combat, inlassablement. Mon séjour s'achève. Je laisse Naples à ses démons.